Et nous relisons ce matin ensemble le début du chapitre 28 de l'Évangile selon Matthieu, les 10 premiers versets. Après le sabbat, dimanche, au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un fort tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect d'un éclair et ses vêtements étaient blancs comme la neige. Les gardes en eurent une telle peur qu'ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « N'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a crucifié, il n'est pas ici. » Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché. Allez vite dire à ses disciples, il est ressuscité et il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Elles quittèrent rapidement le tombeau, remplies tout à la fois de crainte et d'une grande joie. Et coururent porter la nouvelle aux disciples. Tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent de lui, saisirent ses pieds et se prosternèrent devant lui. Jésus leur dit « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront ». Dans ce récit de Matthieu, par le récit lui-même, les mots utilisés aussi par la scène dans laquelle on se trouve, tout nous renvoie à un lieu de passage, à un seuil, avec une porte qui s'ouvre normalement dans un seul sens, mais ici, cette porte s'ouvrira dans l'autre sens. Tout ressemble ici à un seuil, à la fois la fin de la nuit et le commencement du jour. C'est le moment un peu suspendu, où le temps semble hésiter entre ce qui s'achève et ce qui vient. Deux femmes, Marie de Magdala et l'autre Marie, agissent avec une grande sobriété. Elles ne cherchent ni prodiges ni révélations. Elles vont voir le corps. C'est ce qu'elles sont venues faire. Elles viennent voir un tombeau. Elles ont déjà consenti à la brutalité de la perte. Il n'est plus là. C'est encore la nuit. Pour elle, c'est encore le ciel obscurci du vendredi après-midi, à ce moment. Ces deux femmes sont simplement fidèles à ce qui vient d'arriver. Aller au tombeau, c'est reconnaître lucidement la fin possible de tout. Le récit commence dans une vérité sans fioriture, sans ornement, celle de la mort comme limite qu'on vient constater. Et c'est précisément dans ce lieu de clôture que survient quelque chose d'étonnant, une rupture, une anomalie. Le tremblement de terre rend bien cette idée, un bouleversement complet. Et puis, il y a la descente d'un ange, comme si ça ne suffisait pas. La pierre roulée, apparemment, difficile à bouger. Autant d'images qui signalent une ouverture inattendue et presque impossible à vue humaine. Le monde ordinaire est craquelé, fissuré, l'ordre établi vacille, et la parole qui retentit « Il n'est pas ici » introduit un silence d'un genre nouveau, le silence d'un corps qui n'est plus là où il devrait être. Ce moment peut être compris comme un déplacement de sens pour nous. Le tombeau cesse d'être un point final pour devenir un double point ou un point virgule, quelque chose qui attend une suite, qui la prépare même. Le tombeau cesse d'être un point final pour devenir un lieu de passage. C'est et ce sera toujours le sens de Pâques. Ce qui était destiné à enfermer devient, de manière inattendue, un espace ouvert. Ce sera toujours l'idée de passage qui domine. Dans ce matin de Pâques, on sort toujours du tombeau comme on sort d'Égypte. Le tombeau se donne comme figure de tout ce qui, dans la vie humaine, dans la nôtre, celle de ceux que nous côtoyons, se fige, se ferme ou bien se dérobe, les deuils, les ruptures, les échecs, mais aussi ces états intérieurs où nous trouvons, de temps en temps, nous nous trouvons comme immobilisés, comme morts, un peu comme les gardes du tombeau, captifs de nos échecs. Le récit de Matthieu ne nie rien de cette expérience, il nous l'étale même. Il en prend acte, sans fioriture, là encore, mais il introduit une anomalie, la pierre est roulée, elle ne devait pas l'être. Ce geste est d'une portée considérable pour tous, il ne supprime pas la mort puisqu'elle a déjà eu lieu. Il en modifie le statut. Ce qui était scellé, clos, ne l'est plus. Il devient possible d'entrer, de voir, de constater, mais aussi de sortir de son tombeau alors que, d'ordinaire, personne n'en sort. Le lieu d'enfermement se transforme en espace de circulation. La parole de l'ange invite d'ailleurs à cette double opération. Il dit « Venez voir, entrez, constatez, regardez par vous-même, regardez en face ce qui est. Et puis, allez dire, c'est-à-dire sortez de là et puis faites ce que vous avez à faire dorénavant. Ne restez pas dans la contemplation fascinée du passé, mais dites ce que vous avez vu. Dites-le bien à tous que c'est possible. » Le texte précise que les femmes quittent le tombeau avec crainte et grande joie. Un mélange d'émotions complètement contradictoire. La crainte subsiste. C'est le signe que l'événement ne se laisse pas réduire à une évidence rassurante. Bon, on a vu qu'il n'était plus là, bon, c'est comme ça. Et puis la vie reprend presque normalement. Ce n'est pas aussi simple que cela. La disparition doit rester quelque chose de surprenant. Mais il y a en même temps une forme de joie qui apparaît. Elle ne supprime pas la crainte, elle reste là. Mais elle dit aussi la possibilité d'aller au-delà. C'est généralement comme ça que nous menons notre vie, la crainte de ce qui nous est déjà arrivé, que cette chose se reproduise encore et encore, mais l'espoir aussi d'en sortir une bonne fois. Là encore, c'est le passage, c'est la traversée qui domine, la résurrection comprise sous cet angle-là, désigne moins une négation de la mort, parce qu'elle est toujours là, qu'un passage à travers elle. Et c'est à cela que nous sommes invités. Il n'est pas indifférent que ce passage soit précédé d'un tremblement de terre, ça n'arrive pas tous les jours. Cette image évoque une déstabilisation profonde. Il y a beaucoup de choses qui bougent à la surface, au-dessus de nous, mais le sol sur lequel nous avons placé nos pieds, nous nous attendons à ce qu'il soit là, toujours là, et bien ferme, bien stable. Or, celui-ci bouge lui aussi. Et quand un tremblement de terre a lieu, des masses extraordinaires se soulèvent comme ça, plus rien ne résiste. Ni autoroute, ni pont, ni maison, ni quoi que ce soit. Un bouleversement complet des fondements. Tout est remis en question. Ce sont pour nous les imprévus, les crises, les rencontres décisives aussi, les prises de conscience. Tout cela nous bouleverse parfois du tout au tout. Tous ces événements ont en commun de remettre en question le monde comme nous avions l'habitude de le comprendre ou de le percevoir. Face à cela, les réactions sont très différentes. Les gardes deviennent comme morts, pas morts, comme morts. Ils sont saisis, paralysés, bloqués. Et à l'inverse, les femmes, elles, même saisies de crainte, une crainte qu'elles emportent encore un peu avec elles d'ailleurs, qui ne disparaît pas complètement, ces femmes sortent de leur stupeur initiale, quittent le lieu, courent et transmettent. Cette opposition montre peut-être deux types de vie possibles. Un événement, quel qu'il soit, ne produit pas mécaniquement une transformation. Il ouvre une possibilité. Mais il faut que vienne alors, face à cette possibilité, notre réponse. Certains restent dans la sidération, d'autres se remettent plus vite du choc et reprennent leur vie là où elle s'était mise sur pause. Nous sommes tous différents. Mais ce constat d'un tombeau vide n'est pas simplement une décoration, une manière élégante et optimiste de terminer une histoire tragique, parce que les quatre évangiles terminent par la passion. cette histoire tragique. C'est surtout l'histoire du passage de la mort à la vie dans tous les sens possibles de l'expression. C'est ce qui nous est mis en récit dans ce texte. Dans le récit de Pâques, la mort n'est pas contournée. Elle est là, elle est bien là, on va la voir, on s'y attend. Mais elle est traversée dans un sens et dans l'autre. Le tombeau n'est pas nié, il est ouvert à la circulation, un vrai boulevard. Il y a bien ici une autre manière de regarder, non pas la mort inéluctable, mais la vie qui la précède. C'est là que surgissent toutes les possibilités nouvelles. La rencontre avec Jésus sur le chemin prolonge et déplace encore cette dynamique. Je vous salue. Parole simple, presque banale, mais qui a ici une tonalité particulière. Les femmes s'approchent, saisissent ses pieds et se prosternent. Le geste dit à la fois la reconnaissance, il n'était plus là, il revient, il est de nouveau là. Et puis il y a aussi le désir de le retenir. Mais là encore, le récit donne une limite. Ne craignez pas, mais allez dire. Ne vous attachez pas à ce moment, mais dites à tous ce que vous avez vu et compris. La rencontre ne se referme pas sur elle-même, elle ne devient pas un lieu de fixation, un récit fermé sur lui-même et qu'on se récite année après année, un souvenir ou un album de vieilles photos. Elle débouche sur un envoi. Nos cultes aussi sont des rencontres entre une salutation et un envoi. Ils sont conçus comme cela. Eux aussi sont ouverts à la circulation. Nous ne restons pas ici. La mention de la Galilée est tout à fait significative. Elle renvoie au lieu des commencements. C'est là que tout a commencé, au tout début du ministère de Jésus, revenir au commencement, ou à la possibilité des commencements, quand tout est offert encore, quand rien n'est épuisé, quand nous n'avons pas le long catalogue de nos échecs entrecoupé de quelques succès. Revenir à des commencements quand nous y croyons vraiment et que nous nous lançons dans les choses. Revenir en Galilée. Ce retour au lieu des commencements, au tout début du ministère, c'est revenir à l'espace ordinaire de la vie, loin des centres religieux et des lieux exceptionnels. Il ne s'agit pas de retourner au temple ici, de retourner dans la campagne, loin là-haut, au nord, en Galilée. Ce qui est en jeu, ce n'est pas dans un ailleurs inaccessible, mais dans le tissu même de l'existence quotidienne. C'est ça, la Galilée. Nous venons de la Galilée et il nous faut y retourner. Si l'on poursuit cette lecture, la résurrection apparaît alors comme une sorte de reconfiguration du regard. Elle n'introduit pas un autre monde au sens d'un espace autre, séparé d'un ailleurs, mais une autre manière d'habiter celui-ci parce que nous n'en avons pas d'autre. Elle invite à percevoir des possibilités qui échappaient jusque-là. Pas d'exploration pour découvrir un autre monde, mais un retour au monde connu où nous attendent, sans doute, toutes ces choses que nous n'avons pas pu ou pas su voir la première fois, la deuxième fois. Mais il y aura d'autres fois. Voir la vie toujours à recommencer là où domine l'impression que tout est fini. Admettre que ce qui semblait définitif peut tout de même être déplacé ou dépassé, sinon annulé. Matthieu ne nous propose pas un optimisme naïf, ni un déni confortable, mais au contraire, la même lucidité que ces deux femmes qui allaient au tombeau. La résurrection peut être comprise comme une dynamique, une remise en route, plutôt que comme un état stable, et non. Ça n'est pas un état stable, quelque chose qu'on possède. La résurrection ne s'enferme pas dans un événement passé, nous le savons, mais elle est tout entière dans un processus en cours, un processus qui nous engage, qui nous réclame, qui attend notre présence et notre participation. Chaque fois qu'une personne sort d'un enfermement intérieur, chaque fois qu'une parole vient rouvrir un avenir là où tout semblait perdu pour de bon, chaque fois qu'une relation qu'on croyait perdue, abîmée définitivement, trouve une forme de reprise, alors quelque chose de ce processus se laisse entrevoir. Le récit de Matthieu ne se réduit pas, heureusement pour nous, à un compte-rendu. ni à une simple allégorie, une simple image. Il articule dans un récit certainement extraordinaire les dimensions multiples de la vie, notre finitude, nos crises, nos déplacements, nos transformations, toujours à recommencer, mais toujours la possibilité d'entrer dans une tombe et d'en ressortir, l'ouverture, la circulation. En ce sens, la question qu'il adresse n'est pas de l'ordre du croire, au sens doctrinal du terme. On n'est pas invité ici à se faire une idée aussi juste que possible de ce qu'il faut croire et la transformer en plus en une affirmation qu'on garde précieusement quelque part écrite, qu'on fige déjà. Ce n'est pas à ça que nous sommes invités, mais c'est plutôt de l'ordre du comprendre et du vivre. Intégrer la nouveauté introduite par cette expérience, d'entrer là où on pense que tout est fini, et puis ressortir en se disant que non, décidément, ça n'est pas fini. Cette entrée dans ce mouvement, ce n'est pas quelque chose à comprendre ou une doctrine. C'est reconfigurer sa vie en fonction de cette nouveauté. Est-ce que nous sommes capables de percevoir dans ce qui se ferme la possibilité d'une ouverture ? C'est cette question que nous pose le récit de Pâques. Ce n'est pas une injonction morale de faire mieux ou une exigence de performance, il y en a assez comme ça, partout d'ailleurs. Le texte ne propose pas une méthode, ne nous dit pas comment faire, mais il met en scène un passage. Il suggère qu'un déplacement est possible. Les femmes, dans cette histoire, ne maîtrisent pas ce qui leur arrive. Elles sont prises dans un événement qui les dépasse. Mais elles consentent tout de même à s'y inscrire. Et à chaque fois qu'elles auraient la tentation de s'arrêter, au fond de la tombe ou au pied de Jésus, à l'attraper comme ça en essayant de le retenir, elles sont invitées à ne pas rester là. Elles consentent à s'inscrire dans ce mouvement, à devenir à leur manière des relais. Peut-être que l'essentiel est ici, non pas dans la possession d'une certitude, mais dans l'acceptation d'un mouvement. Pas non plus dans la fixation d'un sens unique, mais dans l'ouverture à plusieurs niveaux de lecture. C'est quand nous sommes dans ce mouvement, nous commençons à recommencer à respirer. La résurrection n'abolit pas la complexité du réel, elle l'assume, mais elle nous aide à la traverser, cette complexité. Elle n'efface pas la mort, elle en conteste le caractère définitif. Ce n'est pas la même chose. Elle ne supprime pas la peur, on le voit bien, le besoin de figer les choses, mais elle la déplace en la laissant coexister avec une forme de joie qui, elle, nous pousse en avant. Dans cette tension se dessine pour nous une autre manière d'être au monde, être attentif aux fractures sans en être nous-mêmes captifs. Être lucide sur les fins, mais ouvert sur les recommencements. Voilà en définitive ce que ce texte nous donne à penser et à mettre en action par la suite. Parce que ça n'est pas et ça ne sera jamais qu'une idée. Une invitation à habiter autrement la vie en y reconnaissant jusque dans les zones les plus sombres la possibilité d'un passage. C'est dans cet espace étroit, parfois même inconfortable, que se trouve non pas une certitude, mais une orientation, celle d'une vie qui, contre toute attente, s'entête à se rouvrir. Amen.